Alors, ceux qui n'aiment pas Ives prennent ce type de musique-là pour dire que c'était un peu n'importe quoi, quoi, ils faisaient jouer ensemble tout le monde des tas de choses très différentes. Et en fait, c'est tout à fait construit, avec le final aussi, comme les rapports conflictuels entre les hommes qui se terminent par une sorte de réconciliation générale, puisque tout le monde monte sur la montagne, qui est une sorte de montagne sacrée et de symbole aussi peut-être de l'Amérique, et de la réconciliation des races, des pensées. Alors on va reprendre un bateau, on va éviter le Titanic, ou d'ailleurs d'autres bateaux qui dans ces années-là étaient parfois torpillés, puisque un grand compositeur espagnol est... Hélas, sombra avec son bateau. Et on va, d'ailleurs, il y a une œuvre de Ives qui, vous savez, qui raconte l'attente sur le port du retour de ce bateau qui a été torpillé par les Allemands, dont j'oublie à l'instant le nom et qui n'arrive pas. C'est une œuvre magnifique qui se termine par un grand choral. Mais justement, on va revenir, j'allais le dire en France, et on va parler d'un chant funèbre d'un quatuor que viennent d'enregistrer les Isaïes, le disque est tout frais, et qui est le quatuor d'Albéric Magnard. Alors Albéric Magnard, ça fait partie de ces compositeurs dont on n'arrête pas de dire qu'il faut les redécouvrir, puis finalement on ne les redécouvre pas jamais. Alors ça fait un moment que ça dure, j'espère qu'on va le redécouvrir. Alors c'est un élément certainement cela de redécouverte. C'est un disque qui vient de sortir. C'est votre marque maintenant, hein. C'est la marque du quatuor Isaïe, ils font eux-mêmes leurs affaires. Ça s'appelle Eon. Et alors quand vous ouvrez le disque, vous voyez Albéric Magnard's Quartet, a musician rather isolated in his era, Magnard has for a moment. Donc vous commencez en fait par les textes en anglais. C'est pour l'exportation Non, mais c'est vrai.
Nous nous arrêtons à la production du son. L'édition est confiée au label Eon.
Ah oui, et alors ils sont anglais?
Non, ils sont français, mais ils ont décidé de mettre le texte anglais avant. Je n'avais pas feuilleté le livret. Je leur offrais la remarque dès lundi matin.
Bon, merci. Alors, un mot sur ce quatuor quand même d'Albéric Magnard. On reparlera tout à l'heure, puisqu'on va terminer par le quatuor de Franck, de cette école française, oui. Où à nouveau, il y a une revendication effectivement de reprendre en main une grande musique de chambre. Et le quatuor de Franck aura un certain style, que nous évoquerons tout à l'heure. Vous parlerez d'un quatuor d'organiste. Enfin, en ce qui concerne Albéric Magnard, comme toujours, c'est une sorte... de cas un petit peu isolé, quoi, d'éléments libres.
Oui,
il est à part, toujours.
Comme vous le disiez très justement, le quatuor de Franck a eu une importance considérable, même s'il n'a pas été le premier quatuor du renouveau français. Je voudrais citer...
C'est lequel, le premier?
Lalo. Ouais. Il y a un très beau quatuor de Lalo. Et puis, il y a deux quatuors qui sont assez intéressants. Il y a des quatuors qui sont assez intéressants de Castillon, Alexis de Castillon et Lequeux. Mais ils n'ont pas été connus. Et vraiment, l'élément déclencheur, ça a été la publication du quatuor de Franck, qui est quasiment sa dernière œuvre et qui est considérée par beaucoup d'amateurs et de musicologues comme le point d'achèvement de l'art franquiste. Donc, c'est vraiment une très grande œuvre de Franck. Mais Franck, l'œuvre était tellement grande qu'elle a drainé dans son sillage une quantité de quatuors et des tas de gens se sont mis à écrire des quatuors cycliques comme celui de Franck, dont c'est le cas de Vincent d'Indy, de Chausson et de beaucoup d'autres. Et Magnard, qui avait suivi quelque temps les cours de Franck, qui était un petit peu dans le cénacle de Franck, s'en est vite détaché parce que finalement cette esthétique ne lui convenait pas. Et il était, sa personnalité violente et rebelle, avec également, disons, une esthétique assez dialectique, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les oppositions tranchées, qui aime les couleurs vives, et qui n'aime pas non plus nécessairement que toutes les modulations se résolvent bien, que toutes les dissonances se résolvent et que l'on module sans cesse, même si c'est de la manière la plus aventureuse. D'ailleurs, Debussy a appelé Franck la machine à moduler, et Magnard n'était peut-être pas aussi sévère, mais il n'aimait pas ça. Et donc, il a réintroduit dans l'écriture du diatonisme contre le chromatisme de Franck et de la dissonance non résolue. Et c'est une œuvre absolument magnifique, qui est très particulière dans le paysage français, qui sonne presque comme une œuvre allemande. C'est une esthétique, c'est justement un petit peu une esthétique de la métaphysique allemande. Elle a un côté mythologue-repas, mais en même temps avec aussi des côtés français, dans le scherzo, avec de très belles sonorités. Parce qu'à la fois Magnard, son quatuor est intéressant à la fois par la manière dramatique de traiter l'écriture, mais aussi par la recherche de sonorités avec des timbres de carillon, avec des timbres de tourme musique du Moyen-Âge dans le final. Et donc c'est vraiment une œuvre tout à fait remarquable qu'il faut découvrir et que je tiens moi-même pour un des quatuors les plus importants de la période. Enfin, il a écrit en 1903, mais disons, si on le met dans la période 1870-1914, sans parler des grands quatuors innovants de Bartok et Schoenberg, c'est quand même une œuvre très importante. Il n'y a pas plus de 10 quatuors de ce niveau-là depuis 1870.
Alors, Miguel Da Silva et Luc Maria Guerra, votre quatuor Isaïe vient d'enregistrer, donc le quatuor d'Albéric Magnat. Est-ce que c'est Fournier qui vous l'a fait découvrir ou vous le connaissiez déjà ?
Non, nous le connaissions après un concert à Bruxelles. Un autre éminent spécialiste de Magnat, Harry Albrecht, nous avait demandé de jouer ce quatuor dans la saison de quatuor à cordes de Bruxelles. Donc nous l'avions joué, mais l'idée de l'enregistrer est venue de discussion avec Bernard, et aussi l'idée de mettre un petit peu en avant cette personnalité de ce compositeur tout à fait engagé et exceptionnel. Et il ne faudrait pas oublier qu'il est mort en résistant à l'invasion allemande en septembre 14.
Alors, Fournier vient de dire qu'en fait il avait un style allemand. Ça, je ne sais pas si ça lui aurait fait plaisir pour quelqu'un qui est mort en défendant son château contre l'armée allemande.
Exactement, dans l'Oise. Et c'était un artiste vraiment dans son temps.
Il a brûlé, vous savez.
Absolument.
Et on a brûlé ses œuvres aussi.
Et ses œuvres ont brûlé avec. Oui. Enfin, les Allemands ont mis le feu à sa maison, puis il a brûlé dedans.
Et cela, plus l'idée que ce compositeur se mesure aux grandes œuvres de Beethoven, parce que quand même un quatuor qui fait 45 minutes, je pense que dans leur inconscient, à Franck et à Magnard, il y a bien sûr la présence de Beethoven. Et j'irai même plus loin, la fin du chant funèbre que l'on va entendre après, cette idée de terminer, je ne sais pas ce qu'en pense Bernard, mais cette fin complètement féerique, magique, fait penser tout de même à la coda de l'opus 127.
Ah oui, un peu. Et c'est ça, tout à fait. Moi, je pensais à la Missa Solemnis, parce que c'était cette espèce d'échelle de Jacob, où après toutes les tensions et tout le drame de cette marche et la combativité, il y a une espèce d'abandon à une espèce de sérénité transparente.
Mais alors, quand on joue Magnard, parce que c'est aussi une question pour ces symphonies, que peuvent se poser les chefs d'orchestre. Est-ce qu'on a l'impression de jouer de la musique française, enfin au sens de la grande tradition, qui effectivement part, que sais-je moi, de César Franck, Chausson, Debussy, Ravel, enfin un certain style français, ou plutôt une musique qui ne serait pas très française, ou est-ce qu'on la joue plutôt à l'allemande ? Est-ce qu'on a l'impression de se situer dans une tradition française en genre Magnat ?
Ça c'est une question difficile, parce que je pense qu'on ne peut pas y répondre d'une manière tranchée. Parce que tout au long de ce quatuor, sans transition parfois, des mondes se succèdent. Et effectivement, il y a des mondes, comme le disait Bernard, qui sont vraiment issus d'une esthétique allemande. Et puis, il y a des couleurs, des transparences qu'on aurait pu retrouver chez des compositeurs dans une autre écriture et un autre style, comme Ravel ou Debussy, voire Fauré à certains moments. Donc, je crois que quand on joue Magnard, on joue Magnard, on ne joue pas particulièrement de la musique française. Ce qui est touchant pour nous et ce qui est, j'allais dire, déroutant quand un quatuor met pour la première fois la partition, c'est d'imaginer qu'un compositeur aussi jeune au moment où il écrit cette œuvre puisse avoir la volonté de dire tant de choses et au même moment. Parce que Bernard, vous pourrez en parler mieux que moi, mais il y a une volonté d'exprimer, j'allais dire, verticalement, au même moment, au même instant, un nombre d'idées incroyables. Les phrases passent au premier violon, mais il y a une phrase dans le même temps à l'alto on ne peut même pas dire qu'il accompagne, ce n'est pas du contrepoint. Il y a une volonté vraiment d'exprimer la totalité. Miguel parlait de Beethoven, je crois qu'il y a chez lui la volonté de dire le mieux et le tout. Et quelque part, c'est une immense prétention, mais à laquelle il a réussi. Et ça, pour nous, c'était vraiment un challenge de réussir à donner ça au concert.
Mmh.
bien, si vous demandez quel est ce chef-d'œuvre, c'est tout simplement, enfin, c'est le quatuor d'Albéric Magna, le mouvement lent que viennent d'enregistrer les Isaïes, un disque sur lequel il faut se jeter, d'autant qu'il y a aussi un quatuor de forêt. Et c'est vrai que c'est une œuvre magnifique. Et je voudrais, Bernard Fournier, simplement pour évoquer un petit peu la façon dont vous écrivez, même quand vous êtes technique, parce que là, il s'agit de l'analyse même de l'œuvre et non pas de chapitres ou de textes qu'il y a souvent en introduction, des grands chapitres qui sont des textes d'histoire, de philosophie, etc. Là, vous parlez de ce mouvement. Donc, c'est ce qui est écrit, vous voyez, en petits caractères, donc ce que lisent seulement quand même les gens qui ont envie de savoir. Alors, voilà comment écrit Bernard Fournier. Le mouvement lent, chant funèbre de forme sonate, comme les deux mouvements extrêmes, est remarquable par son matériau, ses harmonies parfois étranges, son écriture combinant le contrepoint et l'esprit de la variation, ainsi que par son contenu expressif. Dans une profusion toujours grande de motifs, il se fonde moins sur l'opposition de deux thèmes que sur celle de deux principes, l'un dramatique, l'autre lyrique, relayés par les caractérisations respectivement rythmiques et mélodiques des motifs. Le discours progresse en traversant des paysages peints, avec des couleurs tantôt sombres et épaisses, tantôt lumineuses et transparentes, et il adopte un ton qui oscille entre deux pôles opposés, celui d'une farouche détermination et celui d'un abandon à une sorte de poésie des sphères, entre les deux, tous les états d'un lyrisme déploratif. C'est bien écrit, hein ?
Magnifique.
Et je pense que ça doit inspirer les interprètes aussi, quand même, lorsque des musicologues, des analystes écrivent comme ça.
Ah ben le contact avec Bernard Fournier nous inspire, c'est clair.
Bon, j'espère que vous allez jouer très souvent ce quatuor d'Albéric Magna. D'ailleurs, je vous ai demandé de le jouer ici aujourd'hui, mais enfin, vous avez préféré César Franck.
Oui, enfin, parce que on le joue beaucoup moins, le quatuor de César Franck, comme vous l'avez justement
Voilà, donc ce sera peut-être une découverte pour beaucoup de gens.